Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au fascisme. Et dans cette deuxième partie d'émission, on va continuer de discuter l'ouvrage de Daniel Guérin, donc Fascisme et Grand Capital, publié une première fois en 1936 et qui est reparu récemment en 2013. Donc aux éditions Libertalia, et nous sommes toujours pour parler de cet ouvrage avec Charles Jacquier qui a édité cet ouvrage, qui est historien et avec lequel on a déjà fait une autre émission sur le Front Populaire. Et d'ailleurs, cette émission sur le fascisme est l'occasion de rendre hommage à un grand lecteur de Daniel Guérin, Clément Méric, qui est décédé donc d'une agression néofasciste en 2013, et on dédie cette émission à lui, lui qui connaissait très bien la pensée de Daniel Guérin et qui était à la fois un théoricien et un militant de l'antifascisme, qui plus est d'un antifascisme révolutionnaire, libertaire, anticapitaliste, donc assez proche des idées défendues dans cette émission. Alors on a abordé donc dans la première partie de l'émission déjà énormément de choses. Là, on va un petit peu approfondir un certain nombre de choses. On peut en voir principalement quatre. La question de la réaction des partis ouvriers et des syndicats à la montée du fascisme, qu'on a un petit peu abordé déjà dans la première partie de l'émission. Ensuite, la question rapidement, finalement, est-ce que le fascisme sous ses oripeaux révolutionnaires n'est pas en fait un mouvement essentiellement réactionnaire. On a parlé un petit peu de sa négation un peu de la raison, évidemment, mais on pourra encore développer un petit peu ça. Et puis ensuite la question de division interne au fascisme, hein, entre ce que Daniel Guérin va appeler les plébéiens, donc on va dire les personnages, hein, qui tiennent leur position d'une démagogie anticapitaliste réactionnaire, et voilà, de leur opposition par rapport à ceux qui tiennent leur pouvoir plutôt de leur lien avec le grand capital et l'armée. Et puis enfin, on pourra voir un petit peu la politique économique et la politique agricole du fascisme, hein, très rapidement, c'est une partie un peu technique. Alors peut-être pour revenir à un thème qu'on a pas mal abordé dans la première partie de l'émission. Alors, on a vu un petit peu comment est-ce que les partis marxistes ou les partis sociodémocrates français, allemands, italiens avaient sous-estimé largement la menace fasciste. Je pense qu'on peut développer un petit peu cet aspect-là. Tout d'abord, il faut dire quand même que, prendre l'exemple de l'Italie, pour le coup qu'on a moins développé, mais très clairement, le Parti Socialiste italien a sous-estimé la menace fasciste de manière assez incroyable. Et ça, je pense que c'est quelque chose, un point, je pense, fondamental même pour aujourd'hui, c'est que le socialisme italien et la social-démocratie allemande ont été écrasées parce qu'elles se sont, et la classe ouvrière qu'elles, disons, patronnaient avec, ont été écrasées par le fascisme, notamment parce qu'elles s'en sont tenues à la légalité bourgeoise, à la défense de l'ordre bourgeois, alors même précisément que, en réalité, les mouvements fascistes sont, depuis le début, depuis leur état de milice anti-ouvrière, en fait en connexion permanente avec les forces étatiques, et que, en réalité, les socialistes, en disant aux ouvriers « il faut rester dans la légalité », en fait, dressent une corde autour de leur cou en attendant que le fascisme, une fois au pouvoir, puisse complètement les écraser. C'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'à chaque nouvelle étape d'avancement du fascisme, c'est-à-dire son passage de la milice anti-ouvrière à un mouvement de masse, et puis d'un mouvement de masse à la prise du pouvoir, et puis de la prise du pouvoir à la dictature, à chaque fois, les partis ouvriers, les partis enfin, qui sont censés représenter la classe ouvrière, les syndicats qui sont censés représenter la classe ouvrière, négligent la menace, se contentent de faire des appels au respect de l'état de droit. Donc on a, par exemple, en Italie, des grèves générales qui demandent le respect de l'état de droit, ce qui fait quand même un petit peu rigoler. Alors même que, et je fais ça, je pense que c'est une idée quand même assez fondamentale de la Ligue 1, c'est que la seule manière de s'opposer de manière efficace au fascisme, en réalité, ça aurait été une grève générale insurrectionnelle, d'abattre en réalité l'ordre qui a nourri le fascisme, c'est-à-dire l'ordre capitaliste et l'ordre étatiste. Et justement, voilà, qu'est-ce que tu dirais justement par rapport à cette absence de réaction, voire même, tu donnais l'exemple tout à l'heure hein, du 1er mai, il faut quand même dire que surtout les syndicats, plus que les partis, évidemment le Parti communiste et les partis socialistes en Allemagne comme en Italie, ne se sont pas ralliés au fascisme, mais enfin, pour le coup, il y a des syndicats qui ont fini quasiment par se rallier au fascisme avant d'être bon, évidemment balayés, hein, quand le fascisme n'a pu les balayer, mais il y a eu certaines déclarations, disons, de responsables syndicaux quand même assez haut placés, surtout en Italie, je pense, qui ont quasiment dit peut-être que finalement le fascisme, ça va pas changer grand-chose, on pourra toujours défendre la classe ouvrière.
Enfin, sur cet aspect-là, je pense qu'on est, enfin, on aborde un aspect qui est pas abordé d'une manière frontale dans le livre de Guérin. Le livre de Guérin est absolument essentiel, je pense, sur l'aspect sur classe sociale, politique économique, dynamique du fascisme, différentes dimensions. Donc mystique, démagogique, etc. On en a parlé tout à l'heure. Par contre, il y a un élément qui est un peu sous-estimé, il me semble, dans le bouquin, c'est la crise politique qui amène le fascisme au pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour fonctionner, l'État en question, donc l'État bourgeois, démocratique, quoi. L'Italie avant Mussolini est une monarchie constitutionnelle et parlementaire, et l'Allemagne est une république parlementaire, connaissent une crise politique majeure. En Italie, cette crise politique vient de la fin de la Première Guerre mondiale, qui a vu l'Italie ne pas être récompensée au niveau de ce qu'elle attendait par sa participation à la guerre aux côtés de l'entente, enfin l'alliance de la France et du Royaume-Uni. L'Italie ne rentre en guerre qu'en 1915 avec des revendications et ces revendications très précises ne vont pas être satisfaites ou vont être satisfaites de manière très très partielle ou très très réduite puisque les Italiens parleront de victoire mutilée. Donc c'est cette victoire mutilée qui va notamment déclencher l'existence et la prolifération de courants nationalistes, etc. Et c'est dans ces courants nationalistes et interventionnistes pendant la guerre que le parti fasciste va se développer. Il va se développer dans un contexte d'après-guerre qui va être, enfin qu'il faut rappeler en quelques mots, c'est-à-dire que l'Italie est un pays bloqué. D'une part par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les deux années rouges, les occupations de terres, les occupations d'usines, etc. Mais n'arrive pas à sortir, à installer un gouvernement. Un gouvernement stable, avec une politique claire, forte et lisible. Pourquoi ? Parce que la majorité du Parlement est dominée par les socialistes, lesquels socialistes sont des socialistes très représentatifs, à savoir qu'ils ont un discours très à gauche, mais une pratique tout centriste, on va dire, pour faire bref. Et à côté donc de ce parti socialiste qui est finalement fort mais impuissant, il y a le Parti populaire italien qui est en gros l'ancêtre de la démocratie chrétienne. Quoi. Donc c'est un parti qui a la caractéristique d'avancer un certain nombre de revendications sociales extrêmement progressiste, enfin relativement progressiste, mais qui ne peut pas s'entendre avec les socialistes italiens sur la question de la religion, de la place de la religion dans la société, et en particulier sur la place de la religion à l'école. Et donc, le Parti populaire italien, qui est le second parti d'Italie, ne peut pas s'entendre avec le premier parti, qui est le parti socialiste. Et dans ce paysage politique, c'est le fascisme qui apparaît comme la force nouvelle, dynamique, et qui n'hésite pas comme on a dit tout à l'heure, a changé son programme pour surfer sur la vague, pour arriver au pouvoir. Et donc c'est dans un contexte de crise non seulement économique, mais là en l'occurrence politique très forte, que le fascisme arrive au pouvoir. Alors il n'arrive pas du tout au pouvoir à cause de la marche sur Rome. La marche sur Rome est une sinistre rigolade, quoi, si on peut dire. À savoir, dans un premier temps, le fascisme s'attaque aux institutions ouvrières, aux militants, etc.
De manière très très violente, d'ailleurs, il faut le dire.
D'une manière très violente et d'une manière très ciblée. C'est-à-dire, on attaque les bourses du travail, par exemple, on attaque des militants ouvriers, on attaque des municipalités socialistes, des maires, on attaque tout, en gros, les institutions du mouvement ouvrier. Dans un second temps, et porté par sa phase ascensionnelle, le parti fasciste décide non seulement d'attaquer telle ou telle personne, telle ou telle institution, mais de prendre les villes. C'est-à-dire, on va occuper les villes, y compris des villes qui sont dirigées par des municipalités socialistes, en disant, voilà, on vous élimine et on occupe telle ville. Alors, ce n'est pas des villes, ce n'est pas des hameaux ou des petits villages de quelques centaines d'habitants, c'est des villes comme par exemple Bologne. Et ça se répand dans un certain nombre de grandes villes italiennes, jusqu'au congrès du parti fasciste, où là, Mussolini dit, mais maintenant, on est suffisamment fort, et on va entreprendre une marche sur Rome, donc la capitale. Et à ce moment-là, le premier ministre et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Facta, va décider de prendre des mesures extrêmement fermes, de faire appel à l'armée, etc., pour s'opposer à la marche sur Rome. Et donc les premiers trains ne sont pas arrêtés bien avant d'arriver à Rome, et les chemises noires ne paraissent pas du tout, repartent à pied, enfin, c'est un peu la débandade. Et c'est dans un second temps que donc, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre vont être désavoués par Victor Emmanuel, le roi d'Italie, qui dit « mais moi, je ne veux pas... » enfin, qui raisonne en se disant « je ne veux pas faire de bain de somme entre l'armée, la police d'une part, et les chemises noires fascistes de l'autre, parce que finalement, c'est des gens qui nous servent, parce qu'ils nous ont servi contre les organisations ouvrières, contre les occupations d'usines, etc., etc. » Et donc, je ne prends pas le risque de me couper de cette partie de l'appareil d'État et d'aller vers le bain de somme. Et donc, j'accepte la revendication de Mussolini, qui était de devenir le chef du gouvernement. Et c'est ensuite qu'une marche sur Rome, tout à fait légale, quoi, finalement, va venir marquer symboliquement la victoire de Mussolini au pouvoir. Et on peut dire que pour la situation allemande, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de 1900, c'est-à-dire que la démocratie et le régime parlementaire en Allemagne est tout récent. Hein, l'Empire wilhelmien s'est effondré en 1918. Il y a une république qui s'installe dans des conditions extrêmement difficiles, controversées, etc. À partir de 1900, fin 18. Et dans les années suivantes.
Notamment fondé sur le massacre, effectivement, du mouvement révolutionnaire allemand.
Voilà, entre autres. Je veux dire, pas que ça. Même, je veux dire, d'un point de vue de la bourgeoisie libérale, Rathenau, dont j'ai parlé tout à l'heure, est assassiné. Je veux dire, Rathenau, c'est pas du tout un communiste de conseil ou...
Non, pour le coup.
Un libertaire, etc. Mais Rathenau est considéré comme le mal absolu alors que c'est... un industriel plutôt libéral, démocrate, etc., est assassiné par l'extrême droite allemande. Donc on voit que la République de Weimar se construit vraiment sur sa jambe droite, quoi, si j'ose dire, sur ça, une jambe très, très à droite, malgré l'importance du Parti social-démocrate et du Parti communiste allemand. Donc république parlementaire très récente, très fragile, et qui à partir de 1930 et des conséquences de la crise de 1929 est en incapacité de fonctionner. C'est-à-dire que les élections se multiplient, les gouvernements se succèdent sans arriver à déterminer une ligne politique clair avec l'application de mesures destinées à sortir de la crise. Ça, on n'y arrive pas, alors que le chômage explose, enfin les chiffres du chômage en Allemagne sont absolument ahurissants. Je veux dire, au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est quasiment une personne sur trois qui est active, en âge de travailler, qui est au chômage. Quoi. Donc c'est plus de 30% de chômeurs, alors qu'il y en avait 2% en 1928, enfin avant la crise. Quoi. Un effondrement de la production industrielle qui est aussi phénoménal. En 1932, la production industrielle a baissé de 48%, je crois, par rapport à 1928. Voilà. Donc face à cette crise économique, il n'y a pas de solution politique à proposer. Et en dernier recours, finalement, si on peut dire, Hindenburg va accepter ce qu'il avait refusé précédemment. C'est-à-dire, il disait, mais le petit caporal autrichien, il est, en gros, il est foyer, quoi. Il ne faut surtout pas le mettre là. Et puis deux ans après, ou un an après, sous l'influence de son fils et de Von Papen, dont j'ai parlé tout à l'heure, il va penser que finalement, c'est la dernière carte à jouer, ça va être celle-là, quoi. Donc il y a l'aspect crise économique et soutien du capital, et soutien du grand capital et de l'industrie lourde, qui est extrêmement bien documenté par Guérin. Il manque peut-être cet aspect de la crise politique. La crise politique, vue du point de vue même de l'État bourgeois, de ses institutions et des partis qui la représentent. Alors que Guérin documente la crise économique et documente aussi les faiblesses ou les incapacités du mouvement ouvrier. Quoi.
Oui, c'est intéressant effectivement de rappeler que finalement l'arrivée au pouvoir du fascisme se fait dans un contexte presque, on pourrait parler d'une espèce de quadruple crise. Donc il y a évidemment la crise économique, la crise du capitalisme, la crise de surproduction capitaliste dont on a parlé dans d'autres émissions, notamment dans celle consacrée à Frédéric Lordon, très visible en Allemagne avec la crise de 1929, un peu moins en Italie, mais il y a vraiment une crise de surproduction après la Première Guerre mondiale, puisqu'évidemment toutes les industries qui produisaient pour l'industrie de guerre, bah, évidemment, elles ne fonctionnent plus. Il y a une crise, comme tu l'as dit, qui est finalement de la politique bourgeoise. En Italie, tu l'as très bien rappelé, et en Allemagne, finalement, la social-démocratie, qui est déjà très à droite, dans les années 30, va multiplier des mesures extrêmement anti-ouvrières et d'austérité sous la houlette du chancelier Brüning. Mais finalement, ça ne va pas être suffisant pour satisfaire le grand capital. Et en même temps, ça va terriblement accabler les classes moyennes. Donc, et ces deux catégories vont évidemment se tourner vers le nazisme. Et on a parlé aussi d'une, ce qu'on pourrait appeler presque une crise géopolitique, c'est-à-dire qu'il y a tout un discours, et ça je pense que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui, notamment pour critiquer un certain anti-impérialisme, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que cette rhétorique de l'anti-impérialisme, les Allemands, les Italiens et aussi les Japonais d'ailleurs, on pourrait consacrer une émission sur le fascisme japonais, mais enfin ce sera pour une autre fois, ont toute une rhétorique de la nation prolétaire. C'est finalement que ce sont des nations qui sont défavorisées par le système capitaliste mondial, parce qu'elles n'ont pas de colonies, donc pas de débouchés, moins de matières premières. Et effectivement, une des racines de la Seconde Guerre mondiale s'enracine dans le fait qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, les intérêts impérialistes de la France et de l'Angleterre ont été satisfaits, ils ont démantelé leurs adversaires, ils ont mis la main sur le Moyen-Orient. Par contre, les intérêts impérialistes de l'Allemagne, évidemment, ont été très très fortement contrariés par le traité de Versailles, qui lui impose une humiliation, une armée ridicule, qui lui ampute de toutes ses colonies. Et l'Italie aussi est très frustrée, parce que finalement, elle n'a pas réussi à obtenir dans la Première Guerre mondiale ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire précisément des débouchés, des colonies, des matières premières. Et ces deux pays vont être, d'une certaine manière, même si évidemment ça ne justifie pas le fait qu'ils vont rentrer en guerre, mais c'est vrai que le Japon, c'est vrai pour le cas du Japon aussi, vont être d'une certaine manière poussés encore plus vite à la guerre, précisément du fait qu'elles ont été exclues, entre guillemets, du grand gâteau impérialiste à la suite de la Première Guerre mondiale. Et du coup, elles vont très rapidement se rendre compte que pour mener leur politique d'expansion nationale, il leur faut des matières premières, et pour avoir ces matières premières, il leur faut s'étendre en fait extrêmement, extrêmement vite et extrêmement loin. Et évidemment, c'est aussi une des racines effectivement de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, quatrième crise des partis ouvriers. Alors, En Italie, c'est finalement une crise finalement assez classique, hein, comme on en a connu depuis, c'est-à-dire finalement que la social-démocratie, enfin, qui ne se nomme pas comme telle, mais que le socialisme italien en fait est, dans les est de fait quasiment une forme de social-démocratie, qui en fait croit à un capitalisme à visage humain, qu'on peut réformer socialement à l'intérieur de l'État bourgeois et en l'occurrence de la monarchie parlementaire, et qui du coup va en fait, finalement, dès que la monarchie, l'armée, le grand capital va pouvoir se passer de cette social-démocratie, elle va s'en passer radicalement jusqu'à accepter finalement que même les députés socialistes se fassent assassiner, hein, notamment Matteotti. Et finalement, voilà, finalement, comme le dit bien Daniel Guérin, c'est pas la social-démocratie est finalement la plus mauvaise option du mouvement ouvrier face au fascisme, précisément parce que c'est une option légaliste défensive et qui progressivement se fait en fait détruire. Et puis d'un autre côté, il y a le cas allemand où là la crise de, enfin l'incapacité de la gauche allemande à faire face au fascisme va être liée au fait quasiment aux origines de la République de Weimar, c'est-à-dire à la division du mouvement entre d'une part la social-démocratie allemande qui s'est alliée avec, ce qu'il faut, il faut le dire, hein, qui s'est alliée avec l'extrême droite des corps francs avec l'armée pour écraser la révolution en Allemagne, et qui depuis a mené des politiques qui finalement, effectivement, où il y a une dimension sociale indéniable, mais ces politiques sociales sont quand même en net recul au début des années 30, pour le coup il y a beaucoup de choses qui ont été, il y a eu une politique austéritaire très dure contre le mouvement ouvrier, et puis d'autre part qui finalement a laissé les élites qui dirigeaient l'Allemagne auparavant, c'est-à-dire le grand capital, mais aussi l'aristocratie foncière, les grands princes, etc., etc., qui finalement continuent d'être la classe dominante allemande, et quand la classe dominante allemande va pouvoir se débarrasser de la social-démocratie, elle va le faire. Et puis d'un autre part, il y a le Parti communiste, qui recueille très imparfaitement l'héritage de la Révolution allemande, puisque bon, on sait qu'effectivement Rosa Luxembourg et Lénine n'étaient pas trop d'accord, notamment sur le rôle de la spontanéité du prolétariat dans la Révolution. Voilà, elle a critiqué un petit peu les conceptions dictatoriales et avant-gardistes de Lénine. Mais bon, malgré tout, on pourrait se dire que, bah oui, le Parti communiste, malgré tout, à la fin des années 20, au début des années 30, représentait entre guillemets le pôle révolutionnaire en Allemagne. Et en réalité, pas du tout, puisqu'ils vont mener un jeu extrêmement étrange, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à la social-démocratie, ce qui, bon, ça c'est une stratégie finalement qui est assez compréhensible, mais ils vont s'attaquer à la social-démocratie quasiment en alliance, enfin disons en entretenant une ambiguïté quand même extrêmement forte, dont on a un peu parlé dans notre autre émission, avec le nazisme. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. Et là, je renvoie notamment à un ouvrage de Otto Ruhl qui s'appelle « La révolution n'est pas une affaire de parti », où il parle, c'est une note de lecture, du coup, où je parle un petit peu de cette dimension-là. Et ce qui fait que finalement, miné en Italie par l'excès de modération du Parti socialiste et en Allemagne par une social-démocratie qui finalement prépare qui finalement fait le lit du fascisme des politiques austéritaires et en s'accrochant à la légalité bourgeoise, et d'un autre côté un parti communiste qui n'a pas du tout analysé ce phénomène fasciste suffisamment bien, et bien effectivement on voit qu'elle sera cette quadruple crise d'une certaine manière, le cocktail un peu de prise du pouvoir du fascisme. Cette quadruple crise allait pousser, le prolétariat à une forme d'apathie ou de résignation, même s'il y a quand même des tentatives d'autodéfense qu'il faut souligner, mais qui vont être désencouragées, notamment en Italie. Il y a des groupes, les Arditi, qui vont essayer de résister par l'autodéfense armée aux milices fascistes, mais ça va être complètement découragé par les partis socialistes et communistes. En Allemagne, il y a des velléités récurrentes du prolétariat, notamment communiste, de se soulever dès le début des années 30 et puis même encore en 33. Finalement, tout ça va être découragé. Et ce qui fait qu'effectivement, tout ça va mener à ce que finalement, la classe ouvrière désarmée, les classes moyennes, et la bourgeoisie vont se tourner vers le fascisme pour voilà, comme sauveur un petit peu de la société bourgeoise.
Oui, je crois qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire sur la question du légalisme à propos de la situation en Allemagne. Il faut rappeler qu'en 1921, putsch de Kapp, et donc Kapp étant un militaire d'extrême droite, tente un coup d'État, mais ce coup d'État se voit opposer une grève générale tout à fait classique, quoi, qu'on peut comparer avec la grève générale prônée par la CGT le 12 février 1934, et que cette grève générale tout à fait légaliste, quoi, parvient à contrecarrer un coup d'État d'extrême droite en 1921. Et que c'est ce légalisme-là qui va paralyser complètement la social-démocratie face au nazisme, dans la mesure où on peut considérer qu'elle attend la faute pour agir. Hein, c'est-à-dire que le coup d'État de Kapp, comme l'histoire de la brasserie de Munich en 1923, là l'extrême droite sort des clous, donc on peut s'y opposer. En 1923, c'est pas la social-démocratie qui s'y oppose, hein, c'est le président tout à fait conservateur du Land de Bavière. Mais en 21, c'est coup d'État extrême droite extra-légal, donc on l'oppose à la grève générale. Et je pense qu'ensuite, la social-démocratie, jusqu'à la fin, et même quasiment jusqu'après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, a considéré que la ligne rouge, c'était que l'extrême droite sorte de la légalité, et qu'à ce moment-là, on pouvait s'y opposer. Mais l'extrême droite a eu l'intelligence, si on peut dire, de refuser ce cas de figure, et donc a fait que la social-démocratie allemande s'est auto-paralysée jusqu'à la fin, quoi. Pour le Parti communiste, je pense que c'est un peu plus compliqué. Il y a des... déjà, il faut dire que le Parti communiste de 1933 n'a plus rien à voir avec le groupe Spartacus de 1919. C'est la première chose. La deuxième, c'est que dès les années 1923, 24, 25, sous l'effet de ce qu'on a appelé la bolchevisation, la politique du Parti communiste allemand est totalement surdéterminée par la politique de l'international communiste, qui n'est elle-même que le reflet de la politique de l'État-parti soviétique. Et donc le mouvement communiste allemand n'a quasiment aucune marge d'autonomie propre et ne fait que suivre les directives de l'international communiste et de Staline. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut s'interroger sur les raisons qu'avait Staline de lier les mains du mouvement communiste face au danger nazi. Je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse péremptoire à la question, mais on peut avoir de très fortes interrogations sur cette espèce de politique totalement aberrante, qui est celle de ce qu'on appelle la politique de la troisième période de l'international communiste, hein, qui démarre en 1928 et qui va se poursuivre quasiment jusqu'à 1934-1935, avec la nouvelle orientation au Front populaire. Mais cette politique est, comme j'ai dit, totalement surdéterminée par des considérations de politique internationale, de la politique internationale soviétique et de Staline. Alors le seul à l'époque, et c'est quelqu'un sur lequel s'appuie Daniel Guéret, c'est Trotsky, hein, qui lui a tout à fait conscience du danger nazi, et essaye, avec des moyens totalement dérisoires, quoi. Mais essaye de proposer ou de favoriser une politique d'unité d'action en disant mais le danger nazi est trop important pour que le mouvement ouvrier soit divisé. Donc, il peut être divisé sur tout un tas d'autres questions, qu'on ne soit pas d'accord, c'est tout à fait normal, et c'est même à la limite souhaitable. Par contre, face au danger nazi, il faut une politique d'unité d'action. Voilà, donc il va développer un certain nombre d'analyses qui malheureusement ne toucheront que des groupes extrêmement minoritaires dans le mouvement ouvrier allemand. Là, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, je voudrais rappeler simplement les sources d'après Guérin lui-même. Trois personnes sur lesquels Guérin appuie ses analyses, c'est d'abord Trotsky, ensuite le futur dirigeant du POUM, Andrestine, qui a été le premier à porter son attention sur la question de l'industrie lourde dans la politique du fascisme. Et le troisième, c'est un ancien communiste italien qui s'appelait Ignazio Silone, et qui avait, dès le début des années 30, après avoir quitté ou avoir été exclu du mouvement communiste, commencé à travailler sur la question du fascisme. Et au niveau documentaire, Guérin s'appuie sur, d'une part, les analyses d'un institut qui est créé à Paris en 1933 par des émigrés communistes allemands, notamment certains qui ensuite passeront à l'opposition autour de quelqu'un comme William Munzenberg, Manes Ferber, Arthur Koestler, etc. C'est des gens qui naviguent dans cet institut. Alors, ça, c'est plutôt côté communiste et côté socialiste, ou côté plutôt syndicaliste. C'est la Fédération internationale des transports qui est dirigée par un syndicaliste hollandais qui a été, de par son champ de syndicalisation, notamment les marins et les professions de ce type-là, a été très très attentive à la question du fascisme, qui a développé tout un tas d'analyses à l'époque. Donc voilà un peu les trois pôles principaux sur lesquels s'appuie Guérin. C'est Trotsky, Nin, Silone, et les analyses de ces deux instituts, l'un lié au mouvement communiste, l'autre lié au syndicalisme international, dans sa branche transport.
Oui, c'est effectivement pour ça que le bouquin de Guérin est assez bien renseigné, puis il y a aussi d'autres sources très intéressantes. Bon, il a lu très clairement la presse fasciste, même la presse conservatrice française, il cite pas mal l'OTAN et tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment très riche par rapport à ça, et puis on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir d'archives, puisque à l'époque il n'y en avait pas. Et puis bon, au moins lui fait une intervention qui est directement utile à l'époque, alors que bon, malheureusement les historiens qui font des archives arrivent un peu tard en général. Mais pour revenir justement sur la question du légalisme, c'est tout le paradoxe en fait, et toute la force du fascisme, d'apparaître à la fois comme, d'avoir réussi finalement à apparaître comme le parti de l'ordre, d'avoir jamais finalement fait l'erreur qu'a fait Kapp ou qu'a fait Hitler en 1923, de toujours chercher à rester officiellement et globalement dans la légalité, tout en réussissant par des moyens extra-légaux en fait, à détruire le mouvement ouvrier. Et c'est ça en fait. C'est finalement, il y a effectivement, là pour revenir à la phrase de l'historien João Bernardo, le fascisme c'est la révolte dans l'ordre, dans le sens où à la fois elle utilise de violences extra-légales, horribles, il faut vraiment lire le bouquin de Daniel Guérin là-dessus, je veux dire, les massacres d'ouvriers, les assassinats, c'est violent le fascisme, clairement, et c'est pas que la guerre d'Espagne qui est violente, je veux dire, même avant la prise du pouvoir du fascisme, c'est extrêmement violent, évidemment, après il y aura les camps de concentration, les camps d'extermination, voilà, mais bon, déjà, tout début, les milices fascistes sont extrêmement violentes, mais ces milices fascistes, en fait, dans un premier temps, elles ne sont pas contradictoires avec cette image du parti de l'ordre, puisque finalement elles ne s'attaquent qu'aux institutions ouvrières. Et donc, on va dire que dans la phase d'ascension au pouvoir, le fascisme peut apparaître comme le parti de l'ordre tant que finalement il ne tente pas le coup d'État, en fait. Tant qu'il ne s'attaque que de manière extra-légale qu'aux institutions ouvrières. Par contre, ça nous permet de basculer sur un autre thème qui est quand même assez intéressant. Par contre, une fois qu'il est au pouvoir, là, la violence extra-légale qu'il utilise contre le mouvement ouvrier, évidemment, est défendue par le grand capital et par les classes moyennes qui le soutiennent. Par contre, la violence extra-légale que ces éléments les plus plébéiens, pour reprendre le concept de Guérin, les plébéiens, globalement, pour Daniel Guérin, ce sont des gens qui sont plutôt d'origine prolétaire ou classe moyenne ancienne en voie de prolétarisation, et qui, de fait de leur inscription dans le parti, commencent à nourrir un certain goût effectivement pour le pouvoir, pour la violence, etc., etc. Et on va dire que c'est un peu la base sociale du parti, des partis fascistes, quoi. C'est leur caractère de masse leur est donné par tous ces plébéiens qui sont effectivement d'origine populaire, donc qui arrivent quand même relativement bien, qui fournissent vraiment une base sociale à ces partis, et qui eux veulent des places en fait. C'est-à-dire que les plébéiens veulent remplacer la lutte des classes par la lutte des places, et ils veulent finalement mettre la main sur le parti. Sur le parti d'une part, mais surtout sur l'État en fait. Et donc, dès le lendemain de la prise du pouvoir par le nazisme et le fascisme, ces plébéiens vont chercher à se ruer sur les places de l'État. Et donc, c'est le moment où le fascisme, finalement, va noyauter l'État bourgeois et va doubler tous les postes de fonctionnaires d'un poste fasciste. Et donc là, les plébéiens entrent dans toutes les administrations, dans tous les conseils. Et d'autre part, ils entendent imposer leurs lois en haut aux fonctionnaires d'État, à la vieille bourgeoisie. Donc ils entendent finalement diriger l'économie, diriger les différents ministères, les municipalités, etc., etc. C'est-à-dire, bon, ils veulent prendre le pouvoir partout. En haut et en bas, ils entendent faire régner leur ordre, un ordre extrêmement violent, en s'attaquant. Alors ça, la bourgeoisie laisse faire, en s'attaquant évidemment toujours aux militants ouvriers, en les assassinant, en s'attaquant aux institutions ouvrières, mais aussi, et là ça gêne un peu plus, mais aussi à des représentants diplomatiques étrangers, à des membres des classes moyennes jugés insuffisamment national-socialistes, pourquoi pas des éléments qui incarnent finalement la société conservatrice allemande. Et donc là, pour le coup, et c'est ce qu'explique Daniel Guérin, c'est que, après ce grand mouvement, finalement, où les plébéiens, dans les premiers mois, se croient maîtres complètement, à la fois de la rue, se rendent complètement maîtres à la fois de la rue et de l'État, il y a un backlash. Et ce backlash, il vient de l'armée, de l'aristocratie, du grand capital, d'une partie des classes moyennes, qui veulent que, en réalité, la dimension, entre guillemets, révolutionnaire, enfin la dimension de révolte, disparaît, c'est que le nazisme soit simplement un parti de l'ordre, un parti de l'ordre bourgeois. Et là, il y a effectivement quelque chose d'intéressant, c'est toute une période où, après une espèce d'affrontement entre, d'une part, ces forces conservatrices traditionnelles, l'armée, l'aristocratie, le grand capital, les classes moyennes, et d'autre part les plébéiens, globalement, le chef, Hitler d'une part et Mussolini d'autre part vont choisir en fait, et c'est là effectivement où le fascisme va se rapprocher un petit peu plus d'une dictature militaire classique, même si ça on ne peut absolument pas l'y réduire, va commencer à se retourner en fait contre les plébéiens. Est-ce que tu peux raconter ça, parce que c'est quand même assez fascinant de voir la manière dont finalement le fascisme va résoudre. C'est une espèce de contradiction interne entre, d'une part, un parti de l'ordre et, d'une part, un parti de la révolte, de parvenus qui veulent finalement éliminer les élites bourgeoises et les remplacer.
Non, tout à fait. Là, je pense qu'il faut toujours reprendre la chronologie entre l'avant et l'après prise de pouvoir. Et les choses sont finalement pas très compliquées. C'est-à-dire que dans la phase d'ascension vers le pouvoir, ça va être les plébéiens qui vont dominer, parce que c'est eux qui permettent de ratisser le plus large possible, d'avoir le discours démagogique le plus large, le plus interclassiste, le plus attrayant, si on peut dire, avec les guillemets possibles et imaginables. Et donc ces plébéiens, par exemple, pour l'Allemagne, c'est une section d'assaut qui, avec des gens comme Strasser, Rome, etc., qui personnifient un peu ces tendances et ces courants-là. Et comme chacun sait, ils sont éliminés pendant la nuit des longs couteaux en juin 1934, et la SA sera, à partir de là, quantité négligeable. C'est la SS qui va, dans l'appareil nazi, prendre largement le dessus.
Et l'armée qui va, elle, récupérer toute la place, effectivement, voilà. La place qui lui était
avant. En fait, pour schématiser ou pour caricaturer. On peut dire que dans sa phase ascensionnelle, le nazisme ou le fascisme, c'est une espèce d'attelage hétéroclite entre son courant plébéien et un courant qui serait plutôt celui des partisans d'une dictature autoritaire ou militaire au sens classique. Donc dans la phase ascensionnelle, avant la prise du pouvoir, c'est la partie plébéienne qui domine. Une fois le pouvoir conquis, c'est la partie dictature autoritaire, militaire, etc., qui prend le dessus, mais tout en conservant l'aspect revendicatif, plébéien, etc. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le fascisme, c'est la mobilisation des masses sur ses instincts primaires, autour de la figure du chef, etc. Donc ça, on ne peut pas l'éliminer, quoi. Sinon, c'est tout le chef et le parti qui s'effondrent au profit d'une dictature classique, quoi. Et donc, les places ne seront plus à prendre, alors il faudra les rendre, quoi. Mais on va conserver, le pouvoir étant acquis, cette espèce de démagogie sociale. Il faut finalement donner des satisfactions à ce courant plébéien une fois le pouvoir conquis, mais ces satisfactions, elles ne seront plus qu'apparentes. On aura l'illusion de tenir compte des aspirations d'un courant plébéien, mais uniquement pour assurer une base sociale au fascisme, au pouvoir.
Oui, c'est-à-dire en fait...
C'est-à-dire qu'il y a l'inversion des priorités.
Voilà. Oui, et on peut dire finalement que en fait, le fascisme a procédé par épuration progressive des plébéiens. À chaque fois qu'il y a une couche de plébéiens qui devient trop dangereux, on va soit l'éliminer physiquement, comme avec la nuit des longs couteaux, soit l'écarter.
Soit la marginaliser, comme
en Italie. Et d'un autre côté, en fait, au cœur de l'appareil d'État, il va y avoir d'une part... le grand capital, l'armée, enfin finalement la classe dominante traditionnelle hein, qui est toujours là, qui est toujours au pouvoir, et on va dire les plébéiens en fait les plus conservateurs, les plus compatibles avec cette collaboration. Par exemple, on peut penser en Allemagne à quelqu'un comme Goebbels ou quelqu'un comme Göring ou comme Himmler, qui sont effectivement des plébéiens, mais qui sont finalement parce qu'ils y trouvent un intérêt. Qui restent des personnalités tout à fait démagogiques, mais qui en même temps s'accommodent extrêmement bien finalement d'un fascisme plus conservateur, beaucoup moins révolutionnaire entre guillemets. Et finalement, c'est cette couche de presque on pourrait dire de plébéiens conservateurs qui va rester au pouvoir jusqu'au bout. En Allemagne, jusqu'au bout, jusqu'au 45, jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich. Et en Italie, là pour le coup, la différence est que finalement la grande bourgeoisie, l'aristocratie foncière, la monarchie, toutes les forces traditionnelles qui s'étaient appuyées sur le fascisme vont être capables de faire, de renverser Mussolini en juillet 1943, en estimant qu'il est allé trop loin et que voilà, les Américains sont en Sicile et tout ça, et de retourner leur veste très habilement juste à temps, ce qui va faire que, bon, très, très, très paradoxalement, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire, on aura l'occasion de l'aborder dans l'émission avec Michael Seidman sur l'antifascisme, et que, bon... Évidemment, l'antifascisme des démocraties occidentales en politique étrangère a tout relatif, hein, puisque évidemment, parmi les alliés qui vont remporter la Seconde Guerre mondiale, paradoxalement, il y a quand même l'Italie du maréchal Badoglio, qui était un des principaux soutiens de Mussolini lors de son ascension au pouvoir. Voilà, et puis aussi celui qui a quand même conduit la guerre fasciste en Éthiopie, qui a été un carnage pas possible. Donc finalement, voilà, on voit que effectivement, comme tu dis, tout est une histoire de cette composante plébéienne. Elle va être centrale dans l'ascension du pouvoir, et ensuite, elle va être quand même toujours gardée un petit peu en réserve, notamment par exemple en Italie, elle revient un petit peu à la faveur des années 30. Et puis on a évidemment Guérin cite une phrase absolument incroyable de Goebbels qui dit en 1945, alors que l'Allemagne est détruite sous un tapis de bombes, que le national-socialisme est réalisé parce que les riches et les pauvres peuvent mourir dans les bombardements. Enfin, on voit toute une dimension un peu mais c'est vrai que cette dimension plébéienne et démagogique du fascisme, même si elle est considérablement restreinte après la prise du pouvoir, elle reste toujours là un petit peu pour précisément pour permettre au régime de mobiliser les masses et de pas simplement s'encrouter dans une dictature traditionnelle qui a des avantages du point de vue, je pense, du grand capital, etc., mais qui a aussi l'inconvénient de faire perdre toute base sociale à ce régime et de le réduire à, comme la dictature de Salazar, c'est-à-dire, une puissance qui, par exemple, jamais l'Allemagne impériale n'aurait réussi à mobiliser comme l'Allemagne nazie l'a fait lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez clair, quoi.
Oui, je crois que un point sur lequel il faut insister, c'est le caractère interclassiste du fascisme. Et donc le fait qu'il doit tenir ce discours démagogique spécifique pour donner l'illusion à toutes ces classes et fractions de classes qu'il essaye de mobiliser, de prendre en compte leurs intérêts, alors même que toute sa politique consiste à maintenir le capitalisme en l'état. Et là, il y a un truc extrêmement intéressant et extrêmement subtil que dit Guérin. Il dit que le fascisme, dans son rapport avec les classes auxquelles il s'adresse, réalise un miracle psychologique. C'est son expression, sa propre expression, c'est ça, c'est un miracle psychologique. En quoi consiste-t-il ? Là encore, je le cite très exactement. Ce miracle psychologique réalise de transmuer en enthousiasme et en esprit de sacrifice le mécontentement et la misère de larges couches populaires.
Et là, on peut dire, d'ailleurs, ça se rapproche beaucoup en fait de ce que dit Reich, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme des énergies plutôt négatives comme la frustration et le ressentiment en des énergies entre guillemets positives, l'esprit de sacrifice, la violence, etc. Et justement, ça nous permet d'aller vers le fait que le fascisme est en même temps, et c'est ça, je pense, et c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un comme Guérin pour vraiment en saisir la complexité, c'est que d'un côté, le fascisme effectivement a une dimension démagogique de révolte contre l'ordre bourgeois et tout ça, qui peut paraître finalement très contestataire, et en réalité, une bonne partie de l'idéologie nazie est en fait une idéologie profondément réactionnaire, une idéologie qui évidemment conteste la raison, conteste également la démocratie, que ce soit le Parlement, mais aussi, il faut bien le dire, le fascisme. Contrairement à ce qu'on peut croire, et là il suffit de lire les passages de Mein Kampf que cite Guérin, est un mépris des masses incroyable. C'est-à-dire que le fascisme s'appuie sur les masses pour gouverner, mais en réalité considère les masses comme des moutons qu'on peut manipuler à souhait. Et voilà, il y a vraiment un mépris des masses dans le fascisme qui est assez incroyable. Évidemment, il y a au contraire une apologie de l'aristocratie. C'est quelque chose que montre Guérin, mais aussi que Roy Bernardo, c'est que finalement, ce qui caractérise tous les fascistes, même les plébéiens, c'est qu'ils ont l'impression d'appartenir à une forme d'aristocratie. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent relativement bien à s'entendre avec l'aristocratie ou avec le grand capital. C'est précisément que la minorité doit gouverner la majorité, qui est effectivement méprisée dans l'idéologie fasciste. Et donc là, pour le coup, on retrouve quelque chose qui est typique de la philosophie des anti-lumières. Et là, on renvoie à l'émission qu'on a fait sur les lumières et les anti-lumières, parce que pour le coup, le nazisme a des aspects où finalement, il a des aspects. C'est pas intégralement un mouvement réactionnaire, il faut bien le dire. C'est aussi un mouvement qui, contrairement à ce qu'il avait dit, va promouvoir le grand capital industriel, la mécanisation de l'agriculture, le développement du capitalisme. C'est pas un mouvement réactionnaire dans le sens où il chercherait à revenir en arrière dans le capitalisme. Au contraire, il ne cherche pas à refaire dominer le petit paysan allemand ou le petit artisanat et tout ça. Ça, c'est au niveau de la rhétorique, mais dans la réalité, il n'est pas réactionnaire sur ce point-là. Mais par contre, il est bien réactionnaire sur le plan, effectivement, de la domination aristocratique et du mépris des masses. Et puis, on pourrait aussi dire que, et ça, là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans dans l'article d'Alain Pierre, l'actualité d'un archaïsme, c'est qu'il dit qu'une des trois caractéristiques de la pensée d'extrême droite, c'est la dimension de la violence comme la condition humaine. Finalement, c'est la lutte, la guerre des races, la guerre. Et donc là, il y a toute une mystique de la violence en fait, dans le fascisme, qui va d'ailleurs justifier en fait, toute une bonne partie de ces abominations. Hein. Je ne sais pas combien le fascisme a fait des dizaines de millions de morts, donc pour le coup, je pense que c'est assez parlant. Mais il y a effectivement toute une mystique de la violence et une mystique aussi de la toute-puissance de l'État. Il y a une phrase très très forte de Mussolini où Mussolini dit que l'État est tout et que rien n'a de valeur en dehors de l'État. Donc en fait, finalement, bon là on est sur Radio Libertin, donc inévitablement on peut penser au fait que finalement l'idéologie fasciste est une forme de. C'est presque le stade suprême de l'étatisme, entre guillemets, c'est tout le pouvoir dans la société à l'État. Même si ce qui est intéressant justement chez Guérin, c'est qu'à la fois il montre qu'il y a une dictature terrible du nazisme et du fascisme italien, mais qu'en même temps, il a des réserves sur le fait de l'État totalitaire parce qu'il dit non, non, il y a. Si toute la société est subordonnée au fascisme et au nazisme, il y a quand même des classes qui arrivent à maintenir d'une certaine manière leur autonomie, et on se devine bien quelles sont ces classes, sont évidemment le grand capital, l'aristocratie, l'armée. Bon, même si pour le cas nazi c'est un petit peu moins vrai, puisque bon, pour le coup, eux, ils vont être emportés dans la débâcle d'Hitler dans la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Après, si on peut finir très rapidement, parce que ça peut être intéressant pour aujourd'hui. On a parlé un petit peu de finalement que le fascisme finalement avait une politique au service du grand capital. Disons qu'on peut distinguer un peu deux phases dans la politique économique du fascisme. La deuxième phase, c'est un capitalisme de guerre, de contrôle des prix, d'autarcie, voilà un certain nombre de caractéristiques que Guérin égrène, qui font en fait, et ça c'est là où Guérin est extrêmement intéressant, c'est qu'il dit finalement le fascisme comme le nazisme ne font que ressusciter en temps de paix, déjà en temps de paix, bon évidemment il l'accentue en temps de guerre, le capitalisme de guerre de 14-18. C'est-à-dire un capitalisme où en gros l'État contrôle l'intégralité de l'économie et où finalement le grand capital, s'il tire son épingle du jeu par des très hauts profits, l'écrasement des salaires, etc., et surtout l'industrie lourde, hein, l'industrie qui n'exporte pas trop, hein, parce que l'industrie exportatrice est un peu plus pénalisée quand même par cette économie de guerre, il y a malgré tout des très hauts profits. Hein, le grand capital, notamment l'industrie lourde, est quand même récompensé hein, financièrement de s'être plié à cette économie de guerre par des très hauts profits. Et dans une première partie, là, le fascisme, pour le coup, satisfait un petit peu tous les capitalistes par des exonérations fiscales, par la Alors là, c'est assez marrant parce que sur certains aspects, on peut que faire le parallèle avec le néolibéralisme, même si le fascisme et le néolibéralisme sont des choses totalement différentes. Mais enfin, c'est quand même intéressant de constater que le fascisme, par exemple, va reprivatiser un certain nombre de choses qui avaient été étatisées, il va accorder des exonérations fiscales, il va interdire l'ouverture... Alors bon, ça pour le coup c'est pas très libéral, mais ça va plus avec le capitalisme monopoliste. Il va interdire l'ouverture de nouvelles industries qui feraient concurrence aux industries existantes, même si là ça fait quand même écho avec le fait que dans le capitalisme contemporain, on est quand même dans un capitalisme qui, dans un certain nombre de domaines, est globalement oligopolistique, hein, notamment en informatique, c'est extrêmement visible avec Apple, Microsoft, Google qui dominent tout. Le fait que le nazisme subventionne massivement les grandes entreprises en difficulté, donc là on pense à la crise de 2008, le fait que l'État nazi renfloue massivement les entreprises lorsqu'elles ont des difficultés mais n'en tire aucun bénéfice, le fait que l'argent de l'État qui est dépensé de manière monstrueuse accroît de manière énorme les impôts qui pèsent principalement sur les classes moyennes et un peu sur le prolétariat, mais en fait, grâce aux exonérations fiscales, le grand capital reste relativement peu touché et il retouche cet argent, en réalité, le peu d'argent qu'il a lâché, par en fait, les commandes de défense nationale, principalement quoi. On voit bien que, finalement, dans la politique économique du nazisme. On a en fait des mesures qui à la fois font penser un peu au néolibéralisme contemporain et à la fois font penser, et de plus en plus au fur et à mesure du temps, au capitalisme de guerre, au capitalisme d'État, mais que toutes ces mesures, finalement, même si au fur et à mesure elles vont quand même un peu restreindre la marge de manœuvre du grand capital, vont quand même globalement dans le sens du grand capital. Et là-dessus, je pense que Daniel Guérin montre quand même de manière relativement satisfaisante que la politique économique du fascisme, loin d'être une politique économique qu'on pourrait dire alter-capitaliste, au sens où ce sera un capitalisme plus de classe moyenne, plus artisanal ou paysan, c'est un capitalisme finalement où le grand capital limite a encore plus de place, de pouvoir, soit dans l'économie qu'au tout début, quoi.
Oui, je crois que, pour reprendre des mots qui appartiennent à Guérin lui-même, la politique économique du fascisme avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, ça consiste simplement à rétablir les profits des grands groupes et à faire baisser le chômage, et que c'est simplement une économie de guerre en temps de paix. Économie de guerre en temps de paix, c'est les mots même de Guérin. Je crois que ça résume très très bien le...
Et justement, d'ailleurs, on a parlé du massacre des salaires. Non seulement c'est un massacre des salaires, une aggravation des conditions de travail, l'allongement perpétuel de la durée du travail sous le nazisme, il faut le dire, hein, et finalement les ouvriers allemands iront jusqu'à faire des semaines de 60 heures quand même, ce qui est quand même vraiment énorme. Les salaires vont être divisés, enfin vont être réduits de moitié dans l'industrie en quelques années de fascisme, de nazisme pour le coup, et puis de fascisme italien aussi. Et puis, il faut le dire que le fascisme va aller jusqu'à quasiment esclavagiser une partie de sa population, avec le travail forcé, par exemple, de nombreux... progressivement, les travailleurs de l'industrie vont être de plus en plus des travailleurs forcés, qui vont être considérés comme des militaires, et du coup, en fait, s'ils font grève, ils sont considérés comme des déserteurs et donc passables en fait, de la peine capitale. Il y a également des Italiens qui vont être ramenés en Allemagne, des centaines de milliers d'Italiens qui vont être ramenés comme main-d'œuvre en Allemagne pour travailler pour des salaires minables. Il y a dans les campagnes, c'est le dernier chapitre de Guérin avant la conclusion, dans les campagnes, on revient sur une forme intermédiaire en fait entre le servage et le salariat. C'est-à-dire qu'il y a un retour du salaire en nature. Les salaires monétaires sont diminués, sont complètement écrasés. La dépendance à la fois des petits paysans vis-à-vis des propriétaires et des journaliers agricoles vis-à-vis des grands propriétaires s'accroît au point qu'on retourne quasiment à une forme de déférence féodale. Enfin, il y a vraiment dans la politique économique et agricole du fascisme une régression de la condition ouvrière agricole et ouvrière industrielle qui est à peine imaginable aujourd'hui, même si évidemment il faut rappeler en cette fin d'émission que les pires crimes du fascisme évidemment sont évidemment le génocide juif et tzigane, les camps de concentration, l'extermination des Slaves dans le cadre de la guerre, l'écrasement des résistances, etc. Même la population qui ne résistait pas activement, même la population allemande et italienne qui ne résistait pas activement au fascisme et au nazisme s'en est pris plein la gueule. Donc finalement, dans le fascisme, il n'y a pas que les ennemis officiels du fascisme qui sont impitoyablement éliminés ou esclavagisés, mais même la propre population italienne et allemande a été en partie esclavagisée, même si le mot est peut-être un petit peu fort, mais disons que la condition ouvrière s'est retrouvée entre une forme de servage et une forme de salariat, c'est-à-dire des formes quand même extrêmement contraintes. Bon, et bien je pense qu'on peut finir un petit peu là-dessus avec justement les 6 points que Daniel Guérin énonce dans sa conclusion, que le fascisme n'est pas un phénomène provisoire, mais que c'est, et donc il ne faut jamais s'accommoder d'une certaine manière de régime fasciste ou de régime ressemblant au fascisme, précisément parce qu'ils en fait, ils détruisent la classe ouvrière, ils centralisent le pouvoir de l'État, ils maintiennent une terreur policière et ils conditionnent la jeunesse à un point à peine imaginé. On n'en a pas trop parlé, mais enfin, il faut bien dire quand même que le nazisme et le fascisme ont réussi à complètement conditionner, lobotomiser la jeunesse allemande et italienne. Deuxièmement, voilà, le fascisme est capable même d'une certaine manière de perdurer lorsqu'il se retransforme en dictature militaire. Alors, bon, c'est un point un petit peu délicat, mais bon, évidemment, le fascisme italien et le fascisme allemand ont été vaincus, mais ce qu'on peut quand même considérer, c'est qu'en Italie, il n'a pas été... Enfin, le parti fasciste a été totalement vaincu, mais les élites qui avaient soutenu le parti fasciste n'ont pas été vaincues. Voilà, ils ont réussi à changer leurs alliances au bon moment. Ensuite, comme dit voilà, Daniel Guérin, voilà, le fascisme constitue une formidable régression économique et sociale. Quatrièmement, le fascisme, par son impérialisme agressif qui cherche à se constituer des colonies, un espace vital, hein, comme le disent les nazis, finalement ne fait que hâter la guerre impérialiste, même si Guérin dit quand même de manière intéressante que, attention, voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin du fascisme pour avoir une guerre impérialiste, la preuve est la Première Guerre mondiale. Ensuite, cinquième point, que, attention, le fascisme n'est pas quelque chose qui appartiendrait à des pays arriérés, voilà, comme l'Allemagne et l'Italie. En réalité, c'est un phénomène qui peut se manifester partout. Donc là, on voit la postface notamment de McDonald's, hein, sur les États-Unis. On peut aussi renvoyer, alors avec quand même des sérieuses réserves, aux travaux de Yves Sternel sur le fascisme français. Bon, même si là c'est plus sur les aspects idéologiques que ça peut être intéressant, puisqu'il ne s'intéresse pas trop au fascisme comme mouvement, mais plus à l'idéologie. Et puis comme on le sait, il a eu tendance un petit peu à mettre le syndicalisme révolutionnaire dans la même case que le fascisme, qui est quand même très très problématique. Et puis, d'autre part, le dernier, je pense qu'on peut finir là-dessus, la grande leçon de ce livre de Daniel Guérin, c'est que finalement, comme il le dit lui-même, l'antifascisme est illusoire et fragile s'il se borne à la défensive et ne vise pas à abattre le capitalisme lui-même. Donc voilà, je pense que cette phrase est à méditer, surtout aujourd'hui, où il y a quand même une certaine renaissance de l'antifascisme et de ce qu'on peut caractériser comme une forme peut-être de post-fascisme, de mouvement post-fasciste, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans le lointain héritage du fascisme et qui sont quand même très différents, comme le Front National. Et après, bon, de mouvements qu'on peut quasiment qualifier de néo-fascistes, comme par exemple Égalité et Réconciliation. Bon, à partir du moment où Alain Soral se qualifie de national-socialiste, je pense qu'on peut le considérer. Enfin voilà, souvenons-nous de cette leçon de Daniel Guérin, que l'antifascisme doit viser à abattre le capitalisme lui-même et qu'il ne doit pas chercher son salut dans la défense de l'État bourgeois.
Pour faire quand même un lien avec l'actualité, Charles, tu m'as proposé de reprendre les critères que l'historien Robert Paxton, dans son livre « Le fascisme en action », paru aux éditions du Seuil en 2004, a proposé un certain nombre de critères donc, pour juger est-ce que une forme donc nouvelle, hein, historiquement distincte du fascisme classique, mais des formes qui ressembleraient du moins au fascisme, des formes d'idéologie et de mouvement, seraient en train de réapparaître. Alors, donc pour Paxton, en effet, le fascisme, c'est principalement des passions mobilisatrices. Et ces passions, les voici: un sentiment de crise profond au point de ne voir aucune solution traditionnelle pour la résoudre, la primauté du groupe, la croyance que son groupe est une victime, cela justifiant toute action sans limite morale ou légale contre les ennemis, internes ou externes du groupe, la peur du déclin du groupe, le besoin d'une intégration plus étroite, d'une communauté plus pure, le besoin d'une autorité exercée par un super-chef national capable d'incarner la destinée historique du groupe, la supériorité des instincts du chef sur la raison, la beauté de la violence et l'efficacité de la volonté consacrée à la réussite du groupe, et enfin, le droit du peuple concerné à dominer les autres sans contrainte. Donc on voit bien avec une définition du fascisme, non pas historique, mais finalement plus en termes voilà, de passion, de psychologie de masse, hein, pour reprendre l'expression de Reich, on voit bien qu'un certain nombre de mouvements, aujourd'hui, réunissent ces critères. Il suffit de penser à tout ce qui est égalité et réconciliation, bloc identitaire, enfin toute la galaxie, disons, de l'extrême droite, qu'on trouve par exemple sur le site de La Horde. On a une cartographie de cette extrême droite. Et on peut même considérer que dans la population française et européenne, hein, plus généralement, ces critères sont un petit peu plus remplis chaque année. Donc voilà, on peut s'inquiéter aujourd'hui d'une montée non pas du fascisme, mais disons d'une psychologie de masse autoritaire, disons, pour reprendre les termes d'Adorno et d'Horkheimer.
Voilà, en tout cas, on espère que cette émission vous aura intéressé. On vous invite vraiment à lire le livre dont on a, même si on en a parlé quand même copieusement, qui est beaucoup plus riche encore que ce qu'on a dit, même si ça peut paraître étonnant. Et on remercie Charles Jacquier donc, de bien avoir voulu nous parler de cet ouvrage. Merci Charles.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.